I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Bonsoir, bienvenue à nouveau au Grand Contrôle Café. Donc on se retrouve après un été torride dans le studio de Grand Contrôle Radio, également torride comme chacun le sait. Et on va parler évidemment ce soir de rentrée littéraire. Alors non pas que la rentrée littéraire, on y soit si attaché que ça, chez Grand Contrôle ou chez Caribde, parce que la rentrée littéraire, il faut bien dire que c'est un peu l'avalanche. Hein. C'est les livres qui tombent par centaines, c'est trop pour les lectrices, trop pour les lecteurs, trop pour les libraires, trop pour tout le monde, mais on le fait quand même tous les ans. C'est la France, on adore la rentrée littéraire. Bon, dans l'avalanche, il y a quand même des choses absolument magnifiques, et je vais vous en parler de 8 ce soir. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, il n'y a pas que 8 titres absolument captivants, mais ces 8-là ont un petit quelque chose de particulier que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Donc le premier, assez étonnant, enfin ils sont tous étonnants, mais celui-là particulièrement s'appelle « Une vie en l'air » chez Fayard, de Philippe Vasset, et nous raconte l'histoire d'un petit garçon vivant près d'Orléans, à une quinzaine de kilomètres d'Orléans, et qui découvre, alors qu'il est tout gamin, tout à coup, à côté de chez lui, une espèce de monstrueux rail en béton de 18 kilomètres de long. Il se demande bien ce que ça peut être, et il apprend incidemment donc, que c'est l'un des deux rail d'essai de l'aérotrain développé par l'ingénieur Jean Bertin à la fin des années 60, projet abandonné en 1975, et que ce rail d'aérotrain, donc une espèce de viaduc de 18 km, n'a jamais été détruit parce que ça aurait coûté bien trop cher avec ce béton précontraint. Et à partir de ce monument à une technologie disparue, ou à un monument à des années gaulo-pompidoliennes triomphantes, Philippe Vasset développe une espèce d'histoire légèrement magique de la façon dont ce monument finalement a influencé toute sa vie, son psychisme, ce qu'il est devenu. On sait que Philippe Vasset est peut-être l'un des plus grands psychogéographes français. La psychogéographie, c'est cette école littéraire qui est surtout anglo-saxonne, par laquelle des personnes, des écrivains, investissent en fait des lieux sous forme de dérives. Et puis, ils cherchent tout le contenu qui s'y trouve en histoire, en littérature, en philosophie, en sociologie, en urbanisme, et compose avec ça un mélange qui tient du hasard, de la nécessité, et souvent d'une poésie assez étonnante. Une vie en l'air, en fait, nous explique le devenir psychogéographique de Philippe Vasset, la manière dont c'est à cause de l'aérotrain, en réalité, qu'il a écrit, par exemple, un livre très, très fascinant, hein, il y a quelques années, un livre blanc, dans lequel il traquait les blancs de la carte, une carte d'état-major de la banlieue parisienne, où il s'était faufilé dans les endroits qui n'étaient pas cartographiés précisément. Et plus récemment, La Conjuration, un livre qui parlait d'espace abandonné et de ce qu'on pouvait y créer. Et puis de plein d'autres choses, mais que je ne vais pas vous dévoiler ce soir. Donc Philippe Vasset, Une vie en l'air chez Fayard, c'est le premier livre ce soir. Et c'est vraiment fascinant, à partir de ce bloc de béton, d'arriver à tisser un récit pareil.
Vous êtes bien sûr Radio Grand Contrôle.
Alors le deuxième texte ce soir, c'est aussi celui d'un psychogéographe, Brice Bégou, qui est peut-être l'un des Français qui parle le mieux de psychogéographie, notamment dans un livre malheureusement épuisé, mais qui sera sûrement réédité bientôt, c'était chez Inculte, ça s'appelait Suburbia. Et Brice Bégou, dans le roman qui paraît chez Fayard ces jours-ci, qui s'appelle Le Sauvetage, ne parle pas de psychogéographie, mais pourrait-on dire, si on ne pouvait pas se permettre ce jeu de mots à cause d'Isaac Asimov, de psychohistoire. En effet, il est allé chercher un petit événement historique, petit en apparence, mais grand dans tout ce qu'il peut signifier dans ses ramifications, qui nous projette en 1938 à Fribourg-en-Brisgau, donc au cœur de l'Allemagne nazie. Allemagne nazie où les lois antisémites font rage, en attendant l'annexion de l'Autriche, puis d'un gros bout de la Tchécoslovaquie, et puis la marche à la guerre. Et le philosophe Edmund Husserl, donc, qui était d'origine juive, mais qui était converti au luthérianisme depuis très très jeune, ainsi que sa femme, vient de mourir. Et un dominicain belge, en fait, qui est spécialiste de Husserl, qui est en train d'écrire une thèse sur lui, se rend donc à Fribourg pour consulter des textes inédits d'Husserl qui ont été gardés par sa veuve. Et là, il découvre qu'il y a non pas quelques textes inédits comme ça, mais des centaines de milliers de pages qui ont été écrites en sténo par Husserl tout au long de sa vie, et qui sont conservés dans des cartons précieusement par sa veuve. Et là, ce Dominicain conçoit un plan complètement dément dans le contexte de l'époque, avec la police, enfin la Gestapo déjà, hein, qui rôde, parce que Husserl, donc étant un juif, tous ceux qu'il fréquente sont par nature des ennemis de l'État, etc. C'est l'époque où Heidegger a renié, bien entendu, son maître Husserl, pour pouvoir lui continuer sa carrière mirifique. Et ce père dominicain va organiser l'évacuation secrète de ces 400 000 pages de carnet. Alors, c'est-à-dire, c'est complètement dingue. Enfin, et en fait, c'est ça qui va devenir les archives Husserl à l'Université libre de Louvain, et qui est une espèce de monument à l'intelligence, à la philosophie, à la pensée, y compris dans les situations de crise, y compris quand il y va, d'une certaine façon, de la vie et de la mort. Donc c'est très poignant, c'est très intelligent. Ça rappelle évidemment plein de choses dans le détail de ce qui se passe à Fribourg en 1938, des choses qui font frémir, des choses que hélas, on oublie trop souvent et que plein de choses en ce moment nous rappellent aussi. Donc voilà, Bruce Bégout, le sauvetage chez Fayard.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Alors le troisième texte, c'est un premier roman. C'est le premier roman d'une jeune géographe qui s'appelle Marie-Fleur Albecker et qui fait paraître donc ces jours-ci chez Aufort de Vulcain un texte qui s'appelle « Et j'abattrai l'arrogance des tyrans ». Et j'abattrai l'arrogance des tyrans, ça raconte une révolte de paysans au Moyen-Âge en Angleterre. Alors, un peu l'équivalent de la fameuse « Guerre des paysans » de Friedrich Engels, hein, qui était un de ses textes de jeunesse, hein, du compagnon et du co-écrivain de Karl Marx. Et cette révolte paysanne, donc, bon, qui est documentée, qui est historique, avec un bon nombre de personnages que l'on connaît, il a exhumé un personnage qui était plutôt à l'arrière-plan. Elle a exhumé, pardon, un personnage qui était un peu à l'arrière-plan, qui précisément était une femme. Et elle a imaginé le compte-rendu, en fait, que ferait cette femme de cette révolte. Et elle l'a fait en maniant, un peu à la manière des Italiens de Wu Ming, puisqu'il faut rappeler que Wu Ming, malgré sa consonance chinoise, est un collectif d'Italiens de Bologne, d'écrivains de Bologne. Et un peu donc à leur manière, Marie-Fleur Albecker a inventé un ton légèrement anachronique, très distancié, très ironique, très drôle, pour raconter, vu de l'intérieur, cette révolte de paysans. Alors bien entendu, cette révolte contre l'arrogance des tyrans ne nous parle pas que de Moyen-Âge. Elle parle aussi de choses tout à fait contemporaines. Mine de rien, et sous déguisement en fait de cette marche sur Londres, parce que c'est une révolte, bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est une révolte sérieuse. Hein. Il y a quand même eu prise d'assaut de la Tour de Londres, exécution de quelques nobles félons, mauvais conseillers du roi. On voit apparaître aussi, évidemment, cette figure du Moyen-Âge et de plus tard, le respect jusqu'au bout de la personne du roi, qui permet au roi, évidemment, de rouler dans la farine assez aisément ces pauvres paysans révoltés. Voilà donc Marie-Fleur Albecker et j'abattrai l'arrogance des tyrans, c'est chez Aufort de Vulcain.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Alors avec le quatrième texte, on reste dans le Moyen-Âge, si on veut, ou même légèrement avant le Moyen-Âge, mais c'est un Moyen-Âge inventé, puisqu'il s'agit du deuxième tome d'une grande saga de fantasy qui s'appelle La peste et la vigne et qui fait suite à L'enfant de poussière, qui est écrite par un Anglais, Patrick K. Dewdney, qui vit en France depuis ses 4 ans, donc qui parle français mieux que vous et moi, qui vit en Normandie, et qui écrit donc cette saga chez Au diable Vauvert. Alors, La peste et la vigne, que l'on aime ou pas la fantaisie, c'est un texte qu'il faut lire, donc L'enfant de poussière et La peste et la vigne. C'est une saga, c'est ample, c'est puissant, ça souffle. Il reconstruit vraiment un monde, mais il ne se contente pas de le bâtir en constructeur, géographe, cartographe, il le fait ressentir vraiment dans la chair, dans l'intime. Il a une façon de parler de la nature qui est rarissime dans le domaine. Son personnage, donc Sif, c'est quelqu'un, une fois que vous êtes installé à ses côtés, vous avez du mal à le quitter. Et il vous emmène progressivement, en prenant le temps de rentrer en profondeur dans les choses, donc dans ce monde qui, là aussi, bien qu'étant un monde pré-moyenâgeux, est traversé de courants, de choses politiques, éminemment politiques, qui parlent tout à fait à notre contemporain. Et donc, Patrick K. Dewdney, La peste et la vigne, chez Au diable Vauvert.
J'aurais bien aimé quand même inventer la vie calme et belle, sans histoire. Okay. quel espoir, par quel mystère. On se rêve soudain honnête, mais trop tard. On file dans l'aérotrain. À rêver d'une route sans fin. Et lentement, je prends de la hauteur.
Voilà, c'était le groupe Exxon Valdez, cher à notre cœur, et la chanson, c'était évidemment L'Aérotrain, un clin d'œil à Philippe Basset et à son Une vie en l'air, paru chez Fayard, par lequel j'ai commencé cette émission. Les trois textes suivants dont je vais vous parler sont d'une tonalité assez différente les uns des autres, mais surtout par rapport aux quatre premiers que nous avons déjà évoqués, parce qu'ils parlent de sujets qui ont l'air sombres, qui ont l'air même un peu durs, hein, ou tragique, et pourtant ils réussissent à en faire quelque chose, là encore, d'un peu miraculeux, d'un peu magique, qui n'est pas du tout sombre au fond, même si c'est dérangeant. Fanny Taillandier nous offre un troisième roman, donc au Seuil, qui s'appelle « Par les écrans du monde », et qui démarre le matin d'un certain 11 septembre de 2001, par un Américain, un vieillard retraité qui est malade, très malade, et qui laisse en fait un message très bref sur les répondeurs de son fils et de sa fille pour leur dire qu'il va bientôt mourir. Et ce fils et sa fille sont un tout petit peu particuliers dans leur ordinarité. L'une travaille en fait dans une grande compagnie d'assurance qui a ses bureaux new-yorkais dans une des deux tours du World Trade Center, auquel elle se rend justement ce matin-là, un peu en retard. Et l'autre est un ancien militaire reconverti dans la police, et notamment dans la police qui assure la sécurité de l'aéroport de Boston, dont sont partis ce matin-là trois des quatre vols qui vont conduire aux attentats du 11 septembre 2001. Alors, est-ce que c'est un roman sur les attentats du 11 septembre 2001 ? Oui et non. Fanny Taillandier donc, a choisi ces deux Américains ordinaires, mais situés à des endroits extraordinairement clés ce matin-là. Et puis, un autre personnage, qui est lui sur lequel on a pu ensuite savoir pas mal de choses, qui est un peu le chef des commandos, le pilote en fait, du premier Boeing qui se crache dans l'une des deux tours de New York. À partir de ça, elle a construit un roman qui est d'abord extraordinairement, alors qu'on connaît le dénouement, évidemment, hein, à quelques petits détails près, personnel, intime, avec beaucoup d'imagination et beaucoup de documentation, et la façon de faire fusionner les deux est absolument remarquable. Mais c'est aussi un roman qui nous force, conduit gentiment mais fermement à réfléchir sur ce que font les images, sur ce que nous projetons nous-mêmes dans des images, sur leur pouvoir, sur la manière dont elles changent nos vies. Donc c'est un roman, j'ose le dire, assez décisif et qu'il est vraiment important et agréable de lire. Donc c'est Fanny Taillandier, Par les écrans du monde, au Seuil.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Alors ensuite, un roman qui s'appelle La Rouille d'Éric Richer aux éditions de L'Ogre. C'est un premier roman. Éric Richer est tout ce qu'il y a de plus français et pourtant, à la lecture de La Rouille, vous avez l'impression qu'il est finlandais ou estonien ou letton. C'est incroyable à quel point il arrive à rendre, dans le moindre détail, une espèce de tonalité baltique post-soviétique. Donc dans un monde un peu décati, où tout ce qui faisait un peu système social est parti à volo, où la loi du marché s'est imposée avec ses succès pour quelques-uns et ses duretés pour beaucoup d'autres. Et puis aussi le retour un peu de la tradition. La tradition, pas toujours dans ce cas-là de plus sympathique. Et là-dedans, il y a un gamin qui arrive à l'adolescence et qui se rapproche d'un moment qui est à la fois terrible et libérateur, un rituel de passage à l'âge adulte, qui est très secret, très redouté. Tous les gamins savent que c'est moche ce qui se passe, mais qu'il faut en passer par là parce qu'ensuite on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on ne dépend plus en fait de sa famille. Et lui, sa famille, ça ne lui plaît pas beaucoup parce qu'il s'entend très très mal avec son père, son grand-père. Il vit dans une casse automobile, la casse automobile familiale, et il faut bien avouer qu'il passe l'essentiel de son temps à faire des espèces de raids nocturnes secrets en quad et sur le reste du temps à sniffer de la colle dans des voitures où il s'est aménagé des petites planques. Donc une vie un peu glauque et pourtant là-dedans il y a des fenêtres, il y a des bouffées d'oxygène au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce rituel. Donc on angoisse un peu avec lui et puis on se prépare à sauter dans l'inconnu et en espérant pouvoir in fine fuir et devenir quelqu'un d'autre. Et donc ce petit roman d'apprentissage est extrêmement à la fois violent, poétique, rusé. C'est vraiment une très très belle révélation de cette rentrée littéraire. Éric Richer, La Rouille, aux éditions de L'Ogre.
Grande Flore Café. Les coups de cœur du libraire.
Alors le septième roman de ce soir, c'est Michel Julien, L'île aux troncs, chez Verdier. Alors Michel Julien, c'est un des auteurs moi, qui me fascine le plus parce que c'est un auteur qui, à chaque fois, désormais, prétend partir d'un sujet. Quand on me dit le sujet ou quand je le lis, je commence à m'esclaffer en disant « Non, mais ça, ça ne va jamais m'intéresser. » Et à chaque fois, il y a un miracle. Je me dis « Mais il a encore réussi son coup. » Et je vais juste vous rappeler, en fait, sur ces trois précédents romans, parce que vous allez juger avec moi comment est-ce qu'on arrive à faire des choses absolument passionnantes avec ça. Le premier raconte quand même l'histoire d'un bonhomme au Moyen-Âge qui possède, qui a hérité d'un atelier de copie privée. Donc, il fait recopier des manuscrits. C'est un type sympa. Il aime bien se balader, aller voir des potes, boire des coups, notamment au pied du gibet de Montfaucon, rendu célèbre par François Villon. Et à partir de ça, on se dit, oulala, et Michel Julien fait donc un roman qui s'appelle Esquisse d'un pendu, qui est incroyable. Deux ans après, il fait encore bien pire, puisque là, il choisit comme héros, tenez-vous bien, un mécanicien auto spécialisé en camions, crétois, sourd-muet, et sa mère également sourde-muette. Et vous allez dire, non mais attendez là, c'est pas possible. Et il fait avec ça, pareil, un petit roman extraordinaire d'intelligence, de finesse, de ruse, extrêmement réjouissant. Et puis donc l'année dernière, il nous avait offert un Denise Auventoux, qui là atteignait une sorte de pureté dans le sujet, puisqu'il s'agit d'un quadragénaire qui, pour dépanner en fait ses voisines, accepte de s'occuper de leur chienne, qui est un bouvier bernois appelé Denise, et donc qui raconte un peu ses promenades autour du pâté de maison avec le chien, et puis ensuite comment il décide de l'emmener au Ventoux, donc au Mont Ventoux, dans une grande promenade. Et on va dire, non mais une histoire de chien, de chien et de son maître qui n'est même pas vraiment son maître, non mais c'est pas possible. Et Denise au Ventoux, c'est un des plus beaux romans de ces dernières années. Donc il est assez incroyable, Michel Julien. Et là, qu'est-ce qu'il a choisi comme sujet? Je vous le donne en mille. En 1950, en Union soviétique, il y a des dizaines et des dizaines de mutilés, en fait, par la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y a eu, on sait, 20 millions de morts, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de blessés graves et de mutilés. Et puis, ben, cinq ans après la guerre, ces mutilés qui sont devenus un peu mendiants, un peu aussi ivrognes, il faut bien le dire, qui traînent dans les crues des grandes villes russes, soviétiques, ça la fout mal. Et donc, le pouvoir stalinien décide, non pas de les déporter en Sibérie, parce que quand même, ce n'est pas des ennemis, mais on va quand même les rassembler le plus qu'on peut sur une île dans le lac Ladoga où il y a justement un monastère abandonné, ça tombe bien. Et donc Michel Julien va nous parler de l'île aux troncs. l'île aux troncs parce que c'est là qu'on rassemble ces hommes troncs, Kudjat, parfois effectivement n'ayant plus aucun membre. Et ils nous offrent en fait deux compères qui vont être un peu le Don Quichotte et le Sancho Panza dans ce monastère abandonné et nous racontent leur histoire, leurs fantasmes, leurs joies, leurs peines et puis leur quête un peu folle. Ils sont amoureux, mais amoureux complètement platoniquement, à partir d'une image recueillie dans un journal, d'une photo, d'une héroïne de l'Union soviétique qui est une aviatrice très très célèbre, l'une des principales pilotes de l'escadrille dite des sorcières de la nuit, une escadrille de bombardement léger entièrement composée de femmes, qui a donné bien du fil à retordre aux nazis en 1942-1945. Et donc ils sont amoureux de cette femme et ils se prennent à rêver tout à coup de quitter leur île pour aller lui présenter leurs hommages. Et c'est un peu la genèse de cette folie, de ce voyage que nous raconte Michel Julien, avec une verve énorme et avec une façon de manier l'horreur que représentent ces corps, ces victimes, ce qu'ils sont devenus, leur déchéance, et en même temps tout ce qui continue à battre dans leur cœur, dans leurs yeux, dans leur envie. Et ça en fait un roman absolument magnifique.
Vous êtes bien sur Radio Ground Control.
Et alors pour finir, j'ai gardé non pas le meilleur pour la fin, parce que vous aurez saisi que tous ces romans sont vraiment très très bons. Le dernier est quand même une bizarrerie à nouveau, c'est Gauze, camarade papa, nouvel Attila. Alors Gauze, on s'en souvient parce qu'il y a 2-3 ans, il nous avait offert un premier roman hilarant et très très rusé qui s'appelait « Debout payé » et qui nous emmenait traquer tout ce qui peut se cacher derrière le regard impassible de ces grands blacks qui sont vigiles en fait dans 75% des endroits à Paris ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière les lunettes du vigile? Qu'est-ce qu'il y a d'intime? Qu'est-ce qu'il y a de privé? Qu'est-ce qu'il y a de politique? Qu'est-ce qu'il y a de France-Africain? Tout ça en un petit livre donc, qui s'appelait « Debout payé », Gauze nous l'avait magnifiquement exploré. Et là, avec Camarade Papa, il fait quelque chose de complètement différent, mais d'extrêmement réjouissant, d'extrêmement intelligent, et pourtant en jouant sur deux registres et en faisant se télescoper deux registres admirables. Le premier registre, c'est celui finalement d'un récit qui part des carnets d'un explorateur. Un explorateur qui est quand même un peu particulier, puisqu'on est en 1880, en France, hein, et que les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest ont perdu tous leurs soldats suite à la guerre franco-prussienne, franco-allemande de 1870. Donc ces colonies sont défendues par les commerçants, par des supplétifs, par les tirailleurs qu'on n'appelle pas encore les tirailleurs sénégalais, mais qui le sont, en proie à la convoitise en fait, des Britanniques qui, eux, verraient bien mettre la main sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une histoire de colonisation. Ce jeune homme qui est un orphelin, une fois que ses parents sont décédés alors qu'il arrivait tout juste à l'âge adulte, il part, il tâte un peu de l'usine d'armement d'ailleurs à Châtellerault. Et puis il n'a pas trop envie de devenir ou de rester ouvrier toute sa vie. Et donc il saisit l'occasion, il y a un chargement de vieux fusils à destination de l'Afrique qu'il faut accompagner à La Rochelle. Il accompagne le chargement et puis à La Rochelle, il s'embarque. Et il se retrouve en fait dans ce qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire, dans ce qui est deux comptoirs français à cet endroit-là, qui deviendront plus tard la Côte d'Ivoire. Et il nous raconte avec beaucoup d'honnêteté, de franchise, ce qu'il voit, ce qu'il rencontre, les rapports entre les gens, la façon dont se déroule en fait cette colonisation, qui correspond aussi à ce que le très grand Amadou Kourouma nous avait raconté dans « Monnaie, outrage et défi » il y a maintenant plus de 20 ans. Et ce récit donc de colonisation est très rusé parce que ce colonisateur-là, et parmi les 5 ou 8 ou 6 ou 7 blancs en fait, de l'endroit, n'est pas tout à fait comme les autres. Et Gauze veille à nous rappeler très astucieusement, sans surligner, sans mettre du stabilo partout, à nous rappeler que c'est aussi quelqu'un qui vient, qui est un pauvre. Et qu'il y a une différence qui est au moins aussi importante en fait, que celle de la couleur de la peau, c'est la différence entre les riches et les pauvres. Et que derrière le racisme et le colonialisme, il y a une facette importante de lutte des classes. Gauze est un écrivain engagé, qui a des opinions politiques fortes. Il ne le cache pas. Et il joue lui-même avec ses opinions en nous donnant le deuxième registre de ce roman, qui là, franchement, est hilarant, puisque c'est un petit garçon qui est à Amsterdam, mais dont on découvre rapidement qu'il est en fait le fils d'un opposant ivoirien en exil et de sa femme, donc ils sont en exil aux Pays-Bas. Donc il parle le néerlandais, il faut qu'il apprenne un peu le français, qu'il parle assez mal, parce que pour diverses raisons, il va falloir qu'il retourne en fait dans sa famille en Côte d'Ivoire. Et donc évidemment, ça va croiser le fil précédent un peu tout le long du livre. Et ce petit garçon s'exprime dans son jargon, qui est le résumé en fait des discours politiques permanents de son père, qui est un opposant féroce et de gauche en fait au pouvoir ivoirien post-colonial. Et donc le petit garçon, on a un peu l'impression de lire un discours nord-coréen en permanence. Mais il le fait avec une sincérité, un élan et une façon de décoder le monde qui fait à la fois sourire, bien entendu, voire franchement rire à certains moments, et qui en même temps nous interpelle en disant « Oui, mais ce petit garçon-là, avec son regard communiste sur le monde, est-ce qu'il n'a pas, au fond, très raison ?» Et ça, c'est Gauss, c'est la magie de Camarade Papa. Et je pense qu'il fait partie clairement de ces livres où à la fois on rit beaucoup et on réfléchit énormément. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup dans les livres, et j'espère que vous l'apprécierez également. Et donc, c'est le moment de conclure cette émission de rentrée du Grand Flore Café. Et on va rester en musique avec, pourquoi pas, un peu de musique de Côte d'Ivoire, légèrement politisée.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager. Travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.